C'est le temps du culte où nous ouvrons la parole de Dieu. Et ce matin, je fais une petite digression qui n'en est pas une, en fait, sur la suite du message de dimanche dernier, qui n'est pas terminé. Mais ce message, c'est sur la doctrine chrétienne. Hein, quelle est la saine doctrine? Ce que nous pouvons croire, en fait, en matière de foi? Quelle est la base de cette croyance? Ce à quoi nous croyons? Et à quoi nous obéissons, hein, puisque c'est le thème de l'obéissance, à quoi nous obéissons. Et nous avons vu que ce sont les Écritures, nous devons obéir aux Écritures, à la parole de Dieu. Et cette semaine, Jean-Paul Englert qui est passé, en fait, c'est ce message qu'il avait apporté il y a 10 ans, hein, donc au moins 10 ans, ou 12 ans, bon, je ne sais plus, enfin dans ces eaux-là, qui nous a porté. Donc c'est vraiment une confirmation de ce que nous sommes en train d'étudier. C'est sur les Écritures qui fondent notre foi. Et ce matin, je voudrais parler de la vérité. Vous savez que Jésus est tout. Dieu a créé toute chose en Christ. Et donc Christ, il est la parole, il est aussi la vérité. Et ce matin, nous voulons aborder ce thème de la vérité. Je ne prétends pas exhaustif, mais un aperçu sur l'obéissance à la vérité. Et je vous invite à incliner nos fronts pour demander à Dieu l'aide de son esprit pour qu'il nous convainque de sa parole. Père, nous te remercions parce que tu as dit que le monde passerait, mais ta parole ne passerait point, et nous te remercions de ce que nous pouvons l'ouvrir ce matin et la laisser pénétrer dans nos cœurs. Nous demandons que tu réchauffes nos cœurs alors que nous l'entendons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. 18, pardon. Chapitre 18. Et je vais lire à partir du verset 33. Nous sommes au moment de l'arrestation de Jésus, au niveau historique, hein, dans la chronologie du ministère de Jésus, Christ a été arrêté, hein, et il a été présenté devant d'abord Anne qui était le souverain sacrificateur qui a laissé sa place au gendre qui s'appelle Caïphe. Donc il est passé de Anne à Caïphe. Donc c'est les anciens, les chefs des Juifs, hein, qui l'ont condamné. Et ensuite, après, ils l'ont présenté donc à Pilate, qui était l'autorité politique de cette époque. Et voilà ce que Pilate lui dit au verset 33. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, lui pose une question. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? C'est étonnant, elle est répartie de Jésus, hein, il répond pas indirect. Il pose toujours des questions. Pilate répondit, moi, suis-je donc juif? Une question, envoie une question. Ta nation. Et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Voyez-vous, il veut savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'ont-ils livré à moi? Alors Jésus répondit, verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, tu es donc roi? Alors Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors de nouveau, ils crièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Voyez-vous, quand on n'obéit pas à la vérité, on est à la merci du mensonge, à la merci de la corruption, à la merci de tout ce qui n'est pas bien. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'obéir à la vérité. Mais je crois que, même en tant que chrétien, parfois on est un peu comme Pilate, mais qu'est-ce que la vérité ? Et vous, c'est pas clair pour nous. Et je voudrais éclairer un peu ce matin, parce que pourquoi c'est pas clair, hein ? Parce que dire que la vérité c'est Jésus, c'est bien, mais c'est bien aussi de comprendre pourquoi nous ne comprenons pas bien ce qu'est la vérité. Jésus dit, ok, tu dis que je suis roi, c'est vrai, c'est vrai. Le seul problème, c'est que mon royaume n'est pas de ce monde. Un roi, c'est quelqu'un qui suppose régner. Sur quoi, Élodie ? Il règne sur quoi ? Sur des sujets. Alors, vous êtes très bon ce matin, hein. Est-ce que vous répondez bien ? Oui, oui. Non, parce qu'habituellement, les gens répondent sur un territoire. Hein. Et le roi d'Angleterre, enfin bon, il n'a plus beaucoup de pouvoir, mais enfin, il existe encore. Et c'est le royaume d'Angleterre, roi d'Angleterre, vous voyez. C'est... Donc, souvent, on pense au territoire. Et c'est vrai, il y a un territoire. Mais on ne pense pas toujours au sujet. Donc là, c'est bien parce que le territoire du ciel, est-ce que vous le connaissez ? Le territoire de l'esprit. Donc c'est vrai que c'est mieux de penser, parce qu'il y a un territoire, hein, Dieu il règne sur tout l'univers, le cosmos, mais le problème c'est qu'on ne peut pas l'imaginer tellement grand. Donc c'est les sujets. Et qui est-ce qui est sujet du roi ici ? Il y a des sujets du roi ? Hein ? Et vous, le fait de se reconnaître sujet du roi, ça nous positionne déjà par rapport à la royauté, par rapport au règne. Et c'est ça, ça commence par là. Pilate, lui, ne se positionnait pas. Donc, du coup, il ne voyait pas cette question. Les réponses ne comprenaient pas. Les sacrificateurs, les anciens qui ont livré Jésus, c'est pareil. Eux, ils ne voulaient rien avoir avec ce roi. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils avaient le pouvoir qu'ils partageaient avec les Romains, qui leur laissait ce pouvoir, et donc ils voulaient le perpétuer, ce pouvoir, ils voulaient l'exercer. Et ils savaient que Jésus n'était pas bien vu, hein, parce qu'il commençait à réunir des foules. Vous savez, les gens du pouvoir n'aiment pas trop qu'on réunisse des foules. Hein. En République, c'est très tard, hein, 1800 et quelques, qui a eu l'autorisation de réunir des foules, parce que les gens du pouvoir ont peur. Hein. La preuve, c'est qu'en ce moment, le printemps arabe, vous voyez ce que ça donne, hein, dès qu'on laisse un peu la foule se réunir. Et donc, Pilate et les anciens, ils ne voulaient pas trop qu'il y ait de réunion. Et puis là, Jésus rassemblait les foules entières. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il parlait du royaume dont il fait partie. Il guérissait les malades. C'est bien sûr un royaume où il ne distribuait pas de l'argent. Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait à la porte du temple ? Ils ont dit, j'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Hallelujah ! Vous voulez avoir ce pouvoir de guérir les malades ? Ben vous l'avez, Jésus nous le donne, il a dit guérissez les malades. Ça c'est le pouvoir du royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Le monde... Enfin, quand vous lisez, s'il y en a qui lisent le grec, je crois qu'il y a qui sont dans la salle qui peuvent le faire, c'est le mot cosmos qui est utilisé, le monde. C'est l'habitation des hommes. L'habitation des hommes. Le monde, il faut bien que vous mettiez ça dans la tête parce que ce n'est pas un enseignement qu'on a naturellement. Le monde n'est pas mauvais en lui-même. Voyez-vous ? L'habitation des hommes n'est pas mauvaise. Il y a le mal, vous êtes d'accord, dans le monde. Mais le mal... Le monde n'est pas mauvais en lui-même. Allô ? Ça, c'est l'enseignement de la Bible. Hein. Ce n'est pas forcément l'enseignement de la religion. Donc le monde n'est pas mauvais en lui-même, mais il s'est détourné du Créateur. Hein. Quand vous lisez la Genèse, vous voyez que les hommes se sont détournés. Hein. Parce que Dieu a dit, tout ce qu'il a fait est bon. Allô ? Genèse, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a créé les choses, il a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Okay. Donc c'est pas mauvais en soi-même. Mais l'homme, donc ce monde, le cosmos, hein, ce qui rejoint l'habitation des hommes, s'est détourné du Créateur et la conséquence, Claire, tu as la réponse, la conséquence de s'être détourné du Créateur, c'est quoi? Non. Non, c'est qu'il s'est rendu esclave de quelqu'un qui est qui? Ce Satan et des puissances en général. Hein. Paul va parler des puissances, il va parler des principautés, etc. Mais vous, c'est très important de comprendre le monde. Parce que les philosophies, les religions ne vous disent pas ça. Okay. Or, nous sommes imbus de toutes les gens qui discutent autour de nous. Le monde n'est pas mauvais en lui-même, mais il s'est détourné du Créateur, la rébellion, pour s'attacher à tout un tas d'enseignements, des doctrines fausses, et donc s'est rendu esclave de Satan et de toutes ces hiérarchies du mal. Très important de comprendre ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire mon royaume n'est pas de cette rébellion, voyez, de cette habitation des hommes qui s'est détournée de Dieu. Et la preuve, c'est que les souverains sacrificateurs eux-mêmes, qui étaient bénéficiaires du Messie, qui auraient dû l'acclamer, les premiers, en fait, c'est eux qui l'ont crucifié. Donc vous voyez bien que le monde, ce n'est pas forcément le monde à l'extérieur. Le monde religieux est souvent plus rebelle que le monde à l'extérieur qui cherche Dieu mais qui ne le connaît pas. Donc la puissance qui domine est appelée par Jésus. Cette puissance, Jésus l'appelle le prince de ce monde. Cette puissance à laquelle l'homme s'est rendu esclave parce qu'il écoute sa voix, parce qu'il suit la parole de l'ennemi, eh bien c'est le prince de ce monde. Jésus n'est pas le prince de ce monde. Pourtant, il est le prince des hommes, mais pas de ce monde rebelle. Il est le prince des hommes qui reconnaissent que Dieu est créateur, qui reconnaissent qu'il est souverain, qui reconnaissent qu'il a le droit de régner dans leur vie. Et c'est ça qui est important. En tant que chrétien, nous cherchons une relation avec Dieu pour lui laisser le règne. Jésus, quand il a appris la prière à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Voyez-vous, le contenu de la prière, c'est en relation avec le règne. Il y a quelqu'un qui règne. Qui est-ce qui règne? Le prince de ce monde ou le prince du cosmos, de l'univers hein, tout entier? C'est la question de la vérité. Jésus aime le monde. Jean 3, 16. Vous connaissez? Car Dieu a tant aimé le monde. Mais il l'a aimé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a racheté. Il ne l'a pas aimé comme ça, parce que nous ne sommes pas aimables, puisque nous sommes rebelles naturellement à Dieu. Mais Dieu a aimé le monde, et il a donné son Fils pour le racheter, pour le rétablir dans une relation avec lui. Pour Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est que Dieu règne. Et nous sommes entourés du prince de ce monde qui règne, hein, par toutes les choses qu'on a pu évoquer cette semaine, hein, et sont nombreuses, dont nous sommes repentis. Mais nous voulons qu'il règne sur nous, et c'est pour ça que nous voulons obéir à la vérité. La vérité contre le mensonge qui est entretenu par le prince de ce monde. Le prince de ce monde passe son temps à envoyer des mensonges. Et quand un mensonge, eh bien, il n'est plus assez persuasif, il en trouve un autre, voyez-vous. Il renouvelle les mensonges régulièrement pour que les hommes restent dans leur sphère, hein, un peu emprisonnés dans leur mode de pensée. Pour entrer dans ce règne, il faut aimer la vérité. Il y en a qui aiment la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Allô? Si vous aimez Jésus, eh bien Jésus vous amènera dans la vérité. Il a dit, je vous enverrai mon esprit, le Saint-Esprit, qui vous emmènera dans toute la vérité. L'esprit de vérité qui vous entraînera dans la vérité. L'écriture seule, elle rend témoignage à la vérité. L'écriture rend témoignage. À condition qu'on la lise telle qu'elle est écrite. Et qu'on ne la torde pas. Et l'ennemi passe son temps à la tordre. Alors, je voudrais juste vous rappeler le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, parce que Dieu entre dans notre histoire. Hein. Là, c'est la création, parce que nous n'existons pas de toute éternité. Hein. Dieu est esprit. Lui, il existe de toute éternité. Il n'y a ni commencement ni fin. Il est l'alpha, l'oméga. Nous, en tant que créatures, nous avons un début. Et l'histoire de l'humanité commence avec un début. Okay ? Par contre, nous sommes destinés à vivre éternellement. C'est la différence. Mais c'est grâce à Dieu que nous avons été créés pour vivre éternellement. Par contre, là, il y a la chute, hein, qui nous est décrite dans la Genèse. Et à un moment donné, dans l'histoire, hein, il y a Jésus qui apparaît. Hein. C'est pour ça qu'on peut dire que la croix est le centre, est un peu le centre de l'histoire de l'humanité. Hein, un peu comme si c'était au milieu. Hein. Jésus apparaît. Mais pendant tout ce temps-là, jusqu'à la venue de Jésus, eh bien, l'Écriture, quand nous lisons l'Ancien Testament, connaissons souvent un peu moins que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, qu'est-ce qui nous dit l'Ancien Testament ? Quel est le sens de l'Ancien Testament ? Ça donne du sens à ce contenu de l'Écriture. Le sens, c'est quoi ? Pardon ? J'entends très mal, peux parler un peu plus fort. La préconfiguration, c'est compliqué ça. Préconfiguration. Ouais. Pardon ? Obéir à la loi ? Non, il annonce le Messie. Okay ? Vous connaissez le Messie ? L'annonce du Messie. Oui, bien sûr, c'est la préconfiguration, je suis d'accord, mais. mais. On parle du Messie, hein, et les Juifs parlent du Messie, ils ne parlent pas de Jésus. Okay, donc, tout l'Ancien Testament parle du Messie, hein, donc l'annonce du Messie. Et qui est-ce qui annonce ça ? Ce sont les prophètes, okay, ceux qui parlent de la part de Dieu. Ils annoncent le Messie, donc on attend le Messie. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien qu'Israël ne peut pas accomplir la loi, ils n'y arrivent pas. Régulièrement, ils tombent dans l'idolâtrie, régulièrement, ils tombent parce que c'est notre nature de péché. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas servir Dieu et être sous son règne sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu, sans Jésus. Okay ? Donc Jésus est bien le centre où le Messie est réalisé. Et aujourd'hui, les Juifs attendent encore le Messie, mais quand ils vont s'apercevoir que c'est celui qui a été cloué, eh bien, c'est là que le Seigneur va revenir, ils le verront d'un seul coup comme celui qu'ils ont crucifié. Donc Jésus est le centre de l'histoire, et c'est lui, toute la parole, hein, parce que lui, en plus, il est la parole de Dieu. Tout est centré sur la parole de Dieu. Et quand Jésus a parlé, les gens du monde disaient, mais il ne parle pas comme les autres. Et sa parole a une puissance, sa parole, elle a une crédibilité. Quand il dit quelque chose, les choses s'accomplissent. Quand il s'adresse aux éléments naturels, mais les éléments naturels obéissent, parce que tout obéit à la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu nous insuffle son esprit par la parole. Et dans cette période-là, c'est la période de l'Église. Ici, c'est la période du peuple d'Israël. Mais nous, nous sommes au bénéfice de Jésus. Et là, dans cette Église, elle continue à porter la vérité. L'Église porte la vérité. Vérité qui est en Jésus. Parce que la vérité, ce n'est pas un concept. La vérité, c'est une personne. Allô ? La vérité, c'est une personne. Or, ce qui se passe, c'est que pour brouiller les pistes, eh bien, l'ennemi, donc la parole de Dieu, hein, qui est une parole, hein, qui se traduit dans les âges, hein, c'est les siècles, hein, les siècles des siècles, eh bien, l'ennemi propage une autre parole, hein, qui est la parole du mensonge. Hein. Lui, il veut entraîner dans sa chute le monde, donc les êtres humains, et il envoie eh bien, le mensonge. Et le mensonge, c'est au travers des faux prophètes. D'accord ? Tout est faux. Par contre, c'est très bien fait. Personne, aucun homme peut arriver à la séduction de son mensonge, de la puissance de son mensonge. Donc, déjà, il utilise des faux prophètes dans l'Ancien Testament. Ici, il utilise la croix, mais surmontée d'un serpent, parce que le serpent, depuis l'origine, le serpent ancien, c'est marqué dans Isaïe, partout, etc., c'est le symbole de cette séduction de la parole. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous vous rappelez de ça ? Dans la Genèse, Dieu a-t-il réellement dit ? Il met juste en doute ce que Dieu a dit. Voyez-vous ? Et derrière, ça se fait tout seul après. Les hommes, ils continuent. Voyez-vous ? C'est ça la puissance du serpent. C'est qu'il ne dit pas grand-chose, mais suffisamment pour nous mettre sur la mauvaise direction. Ici, essentiellement, la parole a été écrite par les apôtres, qui sont les nouveaux prophètes, les prophètes qui ont vu Jésus. Donc, ils ont vu Jésus ressuscité. Et c'est pour ça que leur autorité est une autorité historique, pas simplement une légende. Vous voyez, toutes les religions sont basées sur des légendes. Bouddha construit une légende autour. Krishna, légende. Gilgamesh, pour revenir un peu plus vers les peuples anciens, ce sont des légendes. C'est-à-dire qu'on brode des choses. Ici, Luc, par exemple, quand il est l'évangile de Luc, il commence l'évangile en disant « Je me suis enquis de toutes les informations précises pour vous écrire des choses que vous pouvez croire qui sont arrivées. » C'est-à-dire que c'est une sorte d'enquête très très précise pour que la vérité des faits puisse être mentionnée. Et donc là, il y a aussi des faux apôtres. Et toute la première église, déjà, elle a combattu les faux apôtres, ceux qui voulaient établir tout de suite. L'ennemi, il n'attend pas. L'ennemi était à la croix, sauf qu'il était vaincu à la croix. Mais l'ennemi, tout de suite, a mis en place des faux apôtres. Et toutes les épîtres sont remplies de cet avertissement. Attention, il y a des faux apôtres qui sont même au milieu de vous. Voyez-vous ? Alors, il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa, mais l'apôtre Paul dit, ils sont au milieu de vous. Et si on est dans la repentance, ils ne peuvent pas rester au milieu de vous. Voyez-vous ? La puissance de la repentance, ça empêche. Vous voyez, il y a des gens parfois qui viennent dans nos réunions de repentance, qui sont animés de l'esprit de serpent, ils ne peuvent pas rester. En tout cas, ils ne peuvent plus rester maintenant. À une époque, ils pouvaient. Peuvent plus rester. Parce que la présence de Dieu, on ne peut pas rester en présence de Dieu parce que la présence de Dieu, c'est la vie. Et là, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Tout ce qui est occulte, c'est la mort. Alors qu'avec Dieu, c'est la vie. Prenez Hébreux, donc le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Voilà ce qu'on lit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, il y a plusieurs manières de parler à nos pères par les prophètes, il nous a parlé. Aujourd'hui, il nous parle par son Fils. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, c'est par lui qu'il a fait ces mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante après avoir accompli la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom différent du leur. Donc nous voyons que Dieu a parlé par les prophètes, il a parlé par le Fils. Les apôtres n'ont rien à rajouter, parce que dans le Fils tout est accompli, toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies, simplement ils ont prolongé le témoignage de Christ, qui lui a dit « Je vous enverrai mon esprit, le paraclet, qui va vous assister dans votre témoignage. » Nous sommes des témoins de la résurrection de Jésus. Nous sommes supposés être des témoins de la résurrection de Jésus, pas plus. Rien, plus rien à rajouter, puisque tout a été accompli en Christ. Plus rien à retrancher non plus. Ce qui fait que là, vous voyez en même temps se dessiner ce dont j'ai parlé la dernière fois, pour ceux qui s'en rappellent. J'ai enseigné sur le tabouret. Hein ? Ça représente quoi, ce tabouret, ceux qui se rappellent ? Le trépied, oui. C'est un tabouret à trépied, parce qu'il y a aussi le tabouret à quatre pieds. Hein ? Ça existe aussi. Je vais dire juste un mot tout à l'heure là-dessus. Et c'était quoi l'enseignement de ce trépied? Pardon? C'est quoi le dessus du trépied? C'est quoi le dessus? Il a dit, tu te rappelles? Ah, c'est bien de faire une révision. T'étais là, je crois. Ok. Ah. Moi, j'ai beaucoup de mal à me répéter. Mon père, enfin, Christian va vous le dire, était un enseignant pédagogue incroyable. Moi, pas du tout. Pas du tout. J'arrive pas à répéter. Alors que les enseignants répètent tout le temps. Bon. Mais je suis obligé de reconnaître qu'ils ont raison parce qu'en fait, en une fois, on n'arrive pas à assimiler l'enseignement. Donc, je répète. Le dessus, c'est quoi? C'est la doctrine. La doctrine. Alors, bien sûr, c'est un mot. Doctrine, ça vient de docere, latin, c'est-à-dire enseigner. C'est l'enseignement qui nous permet d'exercer la foi. Sur quoi repose notre foi? Sur un certain nombre d'enseignements, sur un certain nombre de choses que nous avons reçues. Or, ces choses que nous avons reçues, eh bien, c'est ce que Dieu a dit, c'est la parole de Dieu. Au travers des prophètes de Jésus et des apôtres qui ont confirmé, parce que Jésus n'a pas laissé d'écrit, les apôtres ont écrit tout ce que Jésus a fait. Enfin, non pas tout, parce que le monde ne pourrait pas le contenir. Donc, ici, vous avez la doctrine qui se déploie, si vous voulez, dans l'histoire. Autrement, c'est une autre forme de tabouret. Hein. Parce que la doctrine dont je vous ai parlé repose sur trois pieds. Wesley, lui, en met un quatrième, mais bon, on retrouve les trois pieds quand même. C'est l'écriture, c'est la tradition, et... Pardon ? Et... C'est l'Église. Ok. Wesley, l'Église, il rajoute l'expérience et la raison. Oh là, c'est dangereux. Donc l'Église. Et on le retrouve ici. Hein. Ici, c'est la tradition. Alors bien sûr, il y a bonne et mauvaise tradition. Tradition, ça vient de quel mot ? Tradition. Transmission. Transmission. Transmettre. Au départ, comment Dieu parlait ? Ben, il parle toujours de la même manière. Il parle audiblement. Enfin, audiblement ou dans notre cœur, mais Moïse entendait audiblement. Les prophètes, il y en a qui entendaient audiblement la voix de Dieu. Et il la transmettait. Okay. Donc au départ, tout était oral. C'est une transmission orale. Vous savez, l'oral, maintenant, on a beaucoup de mal. Bon, heureusement pour moi, parce que je suis très mauvais à l'oral. Donc on a des iPads, on a des trucs, on a des téléphones, tout ça. Bon. Mais on ne développe plus notre mémoire. Mais les anciens, ils n'avaient pas ça. Il fallait qu'ils fassent tout par oral. Et ils transmettaient. Et une fois, j'étais en colloque à Vaud, là, c'est incroyable ce que j'ai appris. La fidélité, la transmission des Juifs, qui arrive jusqu'à la virgule à tout transmettre, c'est incroyable. Et Dieu les a utilisés pour que, justement, ça soit transmis sans... Vous voyez déjà, moi, quand j'écris, je ne peux pas écrire la même chose parce que je vais un peu trop vite ou tout ça, enfin, et puis j'oublie des trucs sans le faire exprès. Les Juifs, ils ont transmis les choses de manière orale, de manière absolument incroyable. Donc nous avons une certaine fidélité dans la transmission. Et c'est ça qu'on appelle aussi tradition, c'est-à-dire la tradition des anciens, tradition de ce qui nous a été transmis par les prophètes. À un moment donné, ça a été mis par écrit. Alors, il y a tous les débats sur l'origine de l'écrit, peu importe. Ça a été écrit, la parole. Mais pendant tout un temps, c'était oral. Et Dieu continue à nous parler oralement dans l'Église. Hein. Les trois piliers de la doctrine, c'est la transmission, tradition d'anciens, la parole de Dieu, qui en fait est simplement... La parole de Dieu, c'est quoi? C'est simplement les traditions qui ont été prises ici, et qui sont sélectionnées par des pères de l'Église. Au début, concile, c'est le concile de 147, je crois, un des conciles où les pères se sont réunis, et ils ont constitué le canon, c'est-à-dire ce qui est considéré comme étant parfaitement inspiré de Dieu, et on a laissé de côté d'autres traditions, d'autres transmissions, où il y avait un mélange, hein, où on sentait que c'était pas... Il y avait des choses de Dieu, les gens entendaient parler de Dieu, mais ils laissaient aussi parler la chair. Pas parler les choses. Et donc, il y a un mélange. Et donc, il y a eu. Dieu s'est servi de ces pères fondateurs de l'Église au IIe siècle pour constituer la parole de Dieu que nous avons, la Bible, hein, de différents livres, mais qui font partie de la tradition, tout simplement. Okay. Donc, la parole, c'est simplement des écrits qui ont été une transmission de ce qu'ils ont entendu de Dieu pour le mettre sous forme de canon, c'est-à-dire c'est ça qui est considéré comme... Et Luther, à la Réforme, a repris ce canon tel qu'il a été accepté par la première Église. Et ensuite, après l'Église. Et l'Église, elle continue le message à entendre. Il y en a qui entendent Dieu. Donc vous êtes aussi de ceux qui transmettent. Et j'espère que vous entendez, que vous le transmettez à vos enfants. Donc vous êtes en train de refaire une tradition, et une bonne tradition, la tradition de transmettre ce que vous avez reçu. Donc on est toujours dans la transmission. Donc la doctrine s'appuie bien sur la tradition de ce que Dieu a dit aux prophètes de l'Ancien Testament. La tradition qui est l'écriture, qui nous transmet la vérité de la parole, et la tradition actuelle qui repose sur les cinq ministères. Alors, j'en parlais un peu avec Philippe, c'est vrai que, vous savez, dans un message, vous ne pouvez pas tout parler, parce qu'il faudrait toute une vie. Donc j'ai beaucoup insisté sur le docteur, mais il y a le ministère de prophète aussi. Et autant le docteur, il appuie sur les principes doctrinaux de la théologie, de notre foi, ce qui est vrai en matière de croyance, mais l'apôtre a une importance fondamentale, c'est d'actualiser souvent l'écriture à ce que nous vivons, que ce soit notre vie personnelle ou que ce soit la vie de l'histoire dans laquelle nous sommes. Donc tous ces éléments sont importants pour notre foi, et c'est le sens de cette stabilité de la doctrine qui s'appuie sur la parole, et les réformateurs ont insisté sur le fait que c'est l'écriture seule qui est la vérité pleine et entière. Par contre, il y a des vérités dans la tradition des anciens, sauf qu'il faut faire le tri. Il y a des vérités dans ce que les prophètes dans l'Église, ou ceux qui ont des dons, des charismes à exercer, des visions, des révélations, etc., donnent. Mais il y a un tri à faire. À chaque fois, il y a un tri. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, la seule vérité révélée, parfaite parole de Dieu, c'est l'Écriture, c'est la Bible. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, on va lire ce passage. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Je vais lire le verset 20. « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Mais vous, l'apôtre Pierre est très clair. Il a dit, ce que vous avez reçu, ce que Dieu a permis que nous ayons au niveau de la parole, c'est parce que ce n'est pas les hommes qui ont choisi de l'écrire, c'est ils ont été poussés par le Saint-Esprit à l'écrire de la part de Dieu. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, cette fois-ci, donc on continue la lecture, chapitre 2, il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, et vous, on parlait des prophètes et des faux prophètes, hein. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs. Il est clair, hein, Pierre. Il est tranchant. Hein, il ne va pas par quatre chemins. Il y a de même parmi vous de faux docteurs. Hein. Les docteurs, c'est ceux qui reçoivent aujourd'hui de la révélation. Hein. Les prophètes, c'est ceux de l'Ancien Testament. De même, il y a parmi vous de faux apôtres, docteurs, etc. Docteurs. Qui introduisent insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Donc nous avons là la tradition, les écritures, hein, alors écriture au singulier, écriture au pluriel, écriture sainte, enfin, catholique, protestant, ça peut varier, et puis même nous on peut l'utiliser, peu importe. C'est l'écriture, parce que ça a été écrit, il est écrit. Mais c'est possible les écritures, parce qu'il y a 66 livres, donc il y a plusieurs écrits. Voyez. Mais c'est une seule révélation, qui est la Bible, que nous connaissons aujourd'hui. Par contre, il y a les fausses doctrines. Et toutes ces fausses doctrines sont basées sur une connaissance qui vient de Satan. Donc c'est sur une connaissance qu'on appelle aussi gnose en grec. En grec, ça veut dire gnose. Donc il y a le proto-gnosticisme, le gnosticisme et le néo-gnosticisme qu'on a aujourd'hui, c'est le Nouvel Âge. Donc la gnose a toujours existé, hein, sous des formes différentes, et c'est simplement l'enseignement pernicieux de Satan qui s'infiltre par les faux prophètes, faux apôtres et la fausse interprétation des Écritures. Donc l'ennemi numéro un du chrétien, c'est la gnose. C'est de rentrer dans un intellectualisme de compréhension. C'est pour ça que nous devons toujours rester appuyés sur une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, et éviter de rentrer dans une spéculation, imaginer des choses qui ne sont pas écrites, ou chercher des sources différentes, parce qu'il y a beaucoup de sources. Vous savez, à une époque, je pense à Irénée. Irénée, il a vécu en 145, enfin au IIe siècle, et c'était le premier évêque à Lyon, dans notre Gaule à l'époque, et il a reçu l'imposition des mains de l'apôtre Jean. Donc c'est pas quand même n'importe qui. Donc c'était la première génération d'apôtres qui ont été envoyés pour évangéliser. Donc Irénée à Lyon, en fait, il a écrit tout un livre contre les hérésies gnostiques, justement, qui avaient lieu à cette époque-là, et qui était là pour arrêter l'avancement du royaume de Dieu, l'avancement de l'Église. Et jusqu'à ces derniers temps, jusqu'en 1947, donc vous voyez, ça fait presque 20 siècles, on ne savait rien sur ces connaissances secrètes, ces gnoses, dont il est parlé des Nicolaïtes, ensuite après dans Apocalypse, vous avez parmi vous des Nicolaïtes, etc. Donc c'est les églises qui sont infiltrées par ces... Pourquoi ? Parce que tout était secret, donc il n'y avait pas d'écrit, il ne laissait pas de traces, c'était de maître à élève et tout ça. Mais Irénée, au travers de ses écrits, parce qu'il avait des gens qui étaient repentis, donc il a dit voilà ce qui fait attention à ça et ça. Et en fait, on n'avait que ces sources-là. Et en 1947, on est tombé sur des livres gnostiques à Nag Hammadi en Égypte, comme en Israël, on est tombé sur les grottes de Qumran en 1948. Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas de hasard, il y a vraiment un enjeu spirituel là, où d'un seul coup, on a trouvé les écrits de la parole de Dieu, on a trouvé Isaïe et tout ça, et la confirmation parfaite de la Bible. Et en même temps, on a trouvé les écrits gnostiques, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile, tout ce qui permet de faire le Da Vinci Code maintenant sur toutes ces connaissances secrètes qui sont les profondeurs de Satan. Et ça, c'est enseigné et diffusé maintenant dans tous les médias que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit les films, etc. Et donc, il faut être très vigilant parce que ces gnoses maintenant rentrent dans la vie courante, pas uniquement les chrétiens. Les chrétiens peuvent en être infectés, et c'est pour douter, c'est pour nous faire douter. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film là de Da Vinci Code, et ils ont dit on doute maintenant, effectivement, parce qu'ils font douter de tout. Vous voyez, c'est très bien fait parce qu'on doute, on dit ce que c'est vrai, ce qui est écrit c'est vrai, la Bible c'est vrai, c'est plus vrai, qu'est-ce qu'il faut croire, etc. Mais c'est fait pour ça, c'est dans ce but-là, c'est pas pour vous obliger à croire quelque chose, mais c'est vous faire douter. Faire douter de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'authenticité de la parole. Alors, pourquoi aujourd'hui est-il difficile de convaincre un Français et un Occidental en général, pas que les Français, de l'Évangile, entre autres ? Il y a beaucoup de difficultés, difficultés personnelles, mais une difficulté sociale, enfin, du monde dans lequel nous sommes occidentaux. C'est essentiellement à cause de la vérité. Parce que, vous savez, à l'époque de Paul, à l'époque des apôtres, le message passait pas dans le monde grec, puisque le monde grec à l'époque c'était l'anglais d'aujourd'hui, c'était la langue qu'on utilisait à l'époque. Et Paul avait du mal à passer le message. Pourquoi ? Parce que quand il parlait de la résurrection, il dit mais Jésus est ressuscité, ok ? Donc c'était une nouvelle extraordinaire. Jésus est ressuscité. Ils ont dit attends Paul, ça va pas non ? Tu crois à ce genre de truc, de bêtises, de ressusciter ? Nous, on sait très bien que la résurrection des corps, c'est une aberration, puisque le corps t'amène que des malheurs. Ça t'amène des maladies, des problèmes et tout ça. Donc à l'époque, le corps était considéré comme mauvais. Vous voyez ? Et donc tout le monde, dans cette philosophie de l'époque, c'était le bonheur, enfin la libération, c'était surtout pas dans un corps, pas revenir dans un corps. Vous voyez ? Et Jésus qui revient dans un corps, c'était un message inacceptable. Et quand ils l'ont entendu pendant un certain temps, et qu'ils ont compris qu'ils allaient dans ce sens-là, ils ont dit, bon, arrête, ça va, on ne savait pas ce que c'était, maintenant ça suffit. Vous voyez, c'était un rejet, parce que dans leur mental, la résurrection des corps, ce n'était pas admissible. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la sagesse de Dieu n'est pas accessible à la sagesse humaine. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, ce n'est pas la résurrection des corps qui pose problème. C'est la conception de la vérité qui pose problème. Donc, quand vous parlez à des Français, je dis Français parce que vous êtes Français, mais occidentaux en général, c'est le problème de la vérité qui ne passe pas. Et pourquoi la vérité ne passe pas? Vous avez déjà réfléchi à ça? Parce qu'on est dans le domaine de la vérité. Obéir à la vérité. Personne n'a une idée? Parce que depuis... Oui? Ouais, alors si c'était ça, ce serait peut-être contournable, mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est simplement parce que la conception de la vérité, si vous n'en êtes pas conscient, tout notre système de pensée occidentale est basé sur le fait que la vérité n'existe pas. Il faut le savoir. Que ce soit en justice, que ce soit en politique. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots. Je fais peut-être des raccourcis, veuillez m'en excuser. Mais depuis la Renaissance, au XVIe siècle, à la Réforme, quand Dieu fait quelque chose, l'ennemi fait autre chose. Okay ? Il contrecarre. À la Réforme, c'était l'Église toute puissante, l'Église catholique à ce moment-là, l'institution qui était le directeur de conscience du peuple. Il fallait penser comme l'Église pensait. Pas question de remettre en cause la foi, les dogmes et tout ça. Et si quelqu'un s'y opposait, il était hérétique et on le brûlait sur un bûcher, même si c'était scientifique, mais on n'avait pas tous les éléments d'investigation. Donc la vérité, c'était ce que l'Église avait défini. Elle était au service de l'État, au service du gouvernement. Et donc, il ne fallait pas penser autrement. À partir de la Renaissance, on a commencé, c'est la libre pensée, hein, c'est Erasme, libre arbitre, qui a fait que on peut penser par soi-même, plus besoin de l'Église. Donc, la Renaissance a fait une ouverture de l'esprit sur les choses qui nous entourent, et on n'était plus obligé de penser comme l'Église le demandait. Mais en même temps, comme il n'y avait pas la communion avec le Seigneur, il fallait chercher un autre moyen de trouver la vérité, puisque l'Église, on la rejetait. Et donc, c'est la raison qui a pris le relais. La raison, par la raison, vous pouvez connaître la vérité. Mais comment fonctionne la raison? La raison, elle n'est pas absolue. Donc, en fait, il faut chercher la vérité par le discours contradictoire. C'est là-dessus que c'est basé. Le discours contradictoire. Et en faisant un discours contradictoire, on trouve la vérité. Celui qui ensuite, après, a mis la couronne sur le tout, c'est Hegel, c'est à la fin du 19e, qui a dit thèse, antithèse, synthèse. Bon, dans le livre de... Je sais plus, il dit thèse, antithèse, foutaise. Mais bon, ça c'est... c'est le livre de... Comment il s'appelle ? Philippe Jauré. Parce que lui, il a bien compris ces mécanismes occidentaux, donc il s'en moque un petit peu, et c'est vrai, c'est de quoi se moquer. Pourquoi ? Parce que si vous faites thèse, antithèse, synthèse pour trouver la vérité, ça veut dire que Élodie, toi tu me dis une vérité, ok ? Toi tu me dis une autre vérité, qui est contraire, hein, il faut surtout qu'elle soit contraire, thèse, antithèse. Donc dans un débat, il faut les deux, il faut les contradictions, d'accord ? Il faut des contradicteurs dans raison, et on fait la synthèse. Donc en fait, la vérité, c'est la synthèse. Donc si vous partez d'une vérité, ben, vous retrouvez ici. Et après, vous prenez ça comme thèse, antithèse, synthèse. Et derrière, vous avez une dérive de la vérité. La vérité n'existe pas, parce qu'il faut la créer. Et c'est pour ça qu'on arrive au relativisme. Tout est relatif. Et au bout de quelques siècles de la Renaissance, on arrive aujourd'hui, mai 68, révolution des mœurs, et là, on installe l'individualisme. Chacun a sa vérité. Toi, tu as tes vérités, c'est super, Élodie. Oh là là, oh, je suis en admiration de ta vérité. Toi, tu as tes vérités, c'est formidable. Chacun a sa vérité. Alors, on pêche dans le bouddhisme, on pêche dans le catholicisme, on pêche partout. Hein, et on a sa vérité. Vous voyez, c'est l'individualisme. On en est arrivé là parce qu'il n'y a plus de vérité absolue. Ici, Jésus est la vérité. Vous vous rendez compte, c'est inadmissible. Pour l'occidental, pour celui qui adopte cette philosophie, c'est inadmissible. Comme au temps de Paul, la résurrection des corps, c'est inadmissible. Ça n'existe pas. La vérité n'existe pas. Il faut la créer. En justice, c'est basé sur l'enquête. Enquête contradictoire, et on trouve la vérité au travers des enquêtes contradictoires. Politique, c'est pareil. La République, elle instaurait des débats, et surtout des débats contradictoires, pour trouver la vérité politique. Et tout est basé là-dessus, sur cet mécanisme de la vérité. Et donc, au milieu du XXe, eh bien, comme cette raison a volé en éclats, parce que les deux guerres mondiales, on a dit, ah ben non, maintenant il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien, la raison extraordinaire, on a la vérité, tout ça. Puis quand le peuple s'est aperçu que ça produit deux guerres mondiales, là, on a arrêté. Mais maintenant, c'est pire. Où est-ce que les gens cherchent la vérité? On est rentré dans un monde pire que celui de la raison. Non, dans l'occulte. Aujourd'hui, c'est l'occulte qui prend le relais. Pourquoi? Parce que les gens disent, mais on n'a plus la vérité de la raison, on n'a plus la vérité de l'Église, on n'a plus la vérité de la raison. Ben, où est-ce qu'on trouve la vérité? Ah, mais tiens, dans l'occulte, il y a des secrets, il y a des vérités secrètes. Ça s'appelle les gnoses. Donc, on va les chercher. Et aujourd'hui, tout le monde rentre dans l'occulte. Tout le monde. Petit ou grand. Enfin, à petite dose ou à grande dose. Et c'est là le grand danger. C'est là le grand. Et c'est là que le prince de ce monde commence à préparer la fin des temps. Alors, il faut bien savoir où nous sommes, dans quel temps nous sommes. Et aussi, comment on évangélise. Je ne vais pas prendre un Français, cette souche-là qui est bien imprégnée de cette raison, et dire, mais oui, la vérité, Jésus, il faut que tu l'acceptes, tout ça. C'est pas possible, parce que il n'est pas préparé comme ça. Donc, le plus important, c'est que moi, je vive dans la vérité, et que je témoigne par ma vie que cette vérité, elle est en moi. Et donc, ça nous oblige, nous, à être beaucoup plus conséquents de notre foi. C'est aussi un bienfait. Okay? C'est pour ça qu'on n'est plus dans une religion, on est dans une relation. Il faut que notre vie témoigne de la vérité. Il y en a qui sont d'accord avec ça? Et c'est ça qui va les toucher. Les gens sont touchés non pas par le discours, parce que le discours, ils ont l'habitude du discours contradictoire pour essayer de trouver la vérité. Non. Éloigné de ça. Paul l'a dit, je ne suis pas venu avec une éloquence parmi vous. Je suis venu avec la puissance de la parole de Dieu qui produit des miracles, des guérisons. Et c'est ça que nous devons chercher. Ce que nous devons chercher, c'est être habité par la puissance de la vérité qui convainc les cœurs par les fruits qu'elle porte et pas par le discours. Alors, le discours, après, on le met par-dessus. Une fois que la personne est convaincue, on peut lui expliquer les Écritures. Mais le commencer en essayant par le discours de la convaincre, ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est l'astrologie. Alors, il y a quelque chose que je ne comprenais pas bien au XVIe siècle, à la Réforme, c'est qu'il y avait beaucoup de choses bizarres qui se produisaient dans ce combat. J'ai appris que l'astrologie était une science reconnue à l'époque. Au XVIe siècle, c'était reconnu. C'était une science, comme une science dure, comme aujourd'hui, etc. Et donc on comprend aussi que les gens utilisaient l'astrologie. Mais aujourd'hui, ça revient, pas comme une sorte de science dure, mais comme une science occulte. Et vous savez, aujourd'hui en France, l'astrologie, tout le monde qui se confie dans les signes du zodiaque, etc., sont nombreux. Et à Paris, il y a plus d'astrologues et de devins que de médecins dans un monde rationnel. Parce que la vérité, il faut la chercher quelque part. Mais nous la trouvons dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça, pour revenir à la doctrine, eh bien, ce qui est le plus important, c'est la parole, c'est ce pied de la parole qui est reconnu par Dieu, qui a permis que ceux qui ont pris cette tradition et l'ont établie comme parole de Dieu, eh bien, c'est elle qui est l'autorité. C'est elle qui doit être une autorité. C'est elle qui doit être l'arbitre, le filtre. D'une part, par rapport aux traditions de l'Ancien Testament, qui sont très bonnes, hein, les bonnes traditions. Et par rapport à la tradition du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'écrits qu'on ne connaît pas trop. Le Didaqué, par exemple, qui a été écrit par les premières églises primitives, comment ils sont organisés, comment ils faisaient la discipline dans les églises, tout ça. C'est très, très important. C'est pas la parole de Dieu, mais c'est une tradition pour conduire une église, c'est bien de le savoir, comment ces églises étaient organisées. Et donc, il y a des traditions qui sont très bonnes à prendre, mais il faut toujours se référer à l'autorité de la parole. S'ils sont recevables, ils sont recevables, s'ils sont conformes à la parole. Si aujourd'hui, il y a des prophètes qui viennent dans l'église ou qui prophétisent sur vous, il faut toujours voir si c'est conforme à la parole. Vous voyez, c'est toujours la conformité à la parole. Vous pouvez recevoir un tas de choses, mais il faut vérifier si c'est conforme. Et c'était l'esprit des Béréens. Jésus est la vérité. Mais il vaut mieux pratiquer cette vérité pour être crédible et pour pouvoir être reconnu. Alors je termine juste pour vous donner la doctrine de Wesley. Il y en a qui connaissent Wesley ? Quand est-ce qu'il a vécu ? Je vais vous donner les dates, ceux qui ne le rappellent pas. Il a vécu 1703-1791. Voilà, donc 18e siècle. Cette semaine, j'étais à la FPF, à une rencontre de la Fédération protestante, et puis à côté de moi, il y avait le président de l'église méthodiste, et il demande l'adhésion à la Fédération protestante. Bon, parce qu'il y avait un conflit, à un moment donné, ils se sont séparés, donc ils re-rentrent, mais ils en faisaient partie, mais là, ils vont redemander leur adhésion. C'est une église au niveau du monde qui est le mouvement méthodiste. Eh bien, ils ont écrit une doctrine, et Wesley disait « L'essentiel de la foi est révélé dans la Bible. » L'essentiel de la foi est révélé dans la Bible. Éclairé par la tradition. Hein? Éclairé par la tradition. Hein? Donc, l'essentiel, c'est dans la Bible. Éclairé par la tradition, ça vous donne une stabilité, parce que ce qu'ont vécu les anciens, c'est bien de le savoir et d'en tenir compte. Vivifié par l'expérience personnelle. Donc, au niveau de l'Église, il y en a qui ont la nouvelle naissance. C'est grâce à cette nouvelle naissance que vous comprenez l'Écriture. Okay ? Mais ça renvoie à l'Écriture. C'est souvent l'Écriture qui nous amène à la nouvelle naissance. Donc, vivifié par l'Écriture et confirmé par la raison. La raison en elle-même n'est pas mauvaise. Mais là, ce serait tout un message là-dessus. C'est la raison autonome qui est mauvaise. Mais la raison, parce que Dieu a fondé les choses par la raison, vous êtes d'accord. Fonder un univers comme ça, ce n'est pas un univers irrationnel. Sinon, on serait déjà tous morts si ça allait dans tous les sens. Les atomes et tout ça, ils ont des lois et tout ça. Donc, il y a une raison, la divina ratio, la raison divine. Et Dieu nous donne cette raison aussi pour établir les choses dans nos vies, établir les choses dans l'Église, établir les choses dans chacune de nos vies de manière raisonnable et rationnelle. Et donc, toutes les traditions chrétiennes qui établissent la doctrine, la saine doctrine, reposent sur ces trois éléments. L'Écriture seule, qui est l'arbitre des traditions des anciens, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et c'est ainsi que nous pouvons avancer, parce que nous ne sommes pas nés de nulle part. Nous avons, et c'est pour ça que la transmission des pères et des mères vers leurs enfants est importante. Comment est-ce qu'un enfant va connaître le Seigneur ? Pourquoi les enfants sont à l'école le dimanche ? Parce qu'il y a une transmission. Il n'y avait pas comme ça, out of the blue, quoi. Okay ? Donc la tradition, la transmission est importante. Mais il faut qu'elle soit soutenue, enfin, elle soit sous l'autorité de la parole. Alors que d'autres institutions chrétiennes, eh bien, ils mettent la tradition avant et l'Écriture en dessous, ou l'Église avant et la tradition en dessous, et c'est là qu'il y a tous les problèmes qu'on connaît. Je vous invite à la prière pour que nous puissions mettre en pratique cette parole, ce que nous avons entendu ce matin. Et la mise en pratique, c'est, comme nous l'avons entendu cette semaine, c'est que nous demandons au Seigneur que l'Écriture soit absolue. Que nous ne soyons pas comme le monde qui cherchons à créer une vérité, voilà, fondée par le discours. Elle est en Jésus. Si nous avons Jésus, nous avons la vérité. C'est vrai que c'est un message irrecevable par le monde, mais nous le recevons parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc que le Seigneur nous aide à mettre cette parole en premier dans nos vies et que nous puissions l'appliquer. La deuxième chose, c'est que nous puissions relativiser les traditions. Il y a des chrétiens qui sont basés sur des traditions familiales. Aussi bonnes soient-elles, ne vous appuyez pas sur vos traditions familiales. Elles sont faillibles. Même si vos pères et mères ont fait le meilleur possible, appuyez-vous sur la parole. Il faut chaque fois que vous mettiez la tradition au filtre de la parole. Que nous puissions relativiser les traditions culturelles, les traditions institutionnelles et les dogmes, parce qu'ils ne sont pas absolus. Et la troisième chose, c'est que nous devons relativiser nos expériences. Les hypercharismatiques fondent leur foi sur l'expérience, mais l'expérience est pareil, elle est mélangée entre la vérité et l'erreur, entre le monde et entre la chair et l'esprit. Et la raison aussi, qui est autonome, qui est blâmable, qui est basée sur l'intellectualisme, les spéculations, que le Seigneur nous aide à mettre toutes ces choses sous l'autorité de la parole. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique cette parole que tu nous as donnée et qu'elle puisse, Seigneur, pénétrer dans tous les aspects de nos vies et que nous ne mettions jamais la tradition ou l'Église au-dessus de ta parole, Seigneur. Donne-nous vraiment d'être dans cette humilité où, Seigneur, ta parole va diriger tous les principes de notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus.